Nicolas Cerciron, bonjour.
Bonjour.
On sait ce que c'est la dette, qu'est-ce que c'est l'extractivisme?
Ah, l'extractivisme, au début, c'est défini comme l'extraction des matières premières en Amérique du Sud, mais moi, je l'utilise dans un sens beaucoup plus large, puisque c'est un nouveau mot, et je dis que l'extractivisme, c'est le pillage des ressources naturelles, végétales, minières et fossiles, mais aussi des ressources humaines, l'exploitation du travail, l'exploitation de l'homme par l'homme, et aussi des ressources financières.
Voilà, et tout a commencé à l'époque des colonies.
Oui, ça a commencé à l'époque des colonies, la grande vague de colonisation au milieu du 19e. Et là, vraiment, c'était la révolution industrielle qui transformait la société. Il y avait un besoin absolument nouveau et phénoménal de matières premières. Et c'est la grande vague de colonisation, c'est la conquête de l'Ouest.
La France, évidemment.
Et évidemment, la France très présente en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre, mais présente aussi en Indochine. Très présente aussi dans les Caraïbes, présente sur toute la surface de la Terre en quelque sorte.
Donc les pays colonisateurs se sont servis, c'est là que la dette est contractée, mais le colonisateur après ne rend pas ce qu'il a pris, au contraire.
Effectivement, la Banque mondiale a imposé aux pays nouvellement indépendants de rembourser les dettes qui avaient été contractées par le pays colonisateur, comme la France par exemple, au Sénégal, au Cameroun, etc., ou ailleurs. Et c'est considéré comme des dettes odieuses, c'est-à-dire des dettes qui n'ont pas servi à la population, qui n'ont pas été faites avec son accord, et alors que le prêteur, en l'occurrence la Banque mondiale, le savait très bien. Comment c'est possible? Eh bien, c'est possible parce qu'en fait, tous les décideurs africains, par exemple, qui voulaient le bien-être de leur peuple, la démocratie, etc., eh bien, ont été soit assassinés, soit mis de côté et remplacés par des dictateurs corruptibles et corrompus par la dette, entre autres, et qui ont accepté l'inacceptable, c'est-à-dire qu'ils ont accepté que leur pays rembourse des dettes qui n'étaient pas légitimes, qui étaient même odieuses.
Est-ce que vous pouvez quand même expliquer ce que c'est la dette odieuse, ce système d'infrastructures qui ont été...
Voilà, moi j'ai été me promener au Gabon, vous avez un train qui a été construit, je ne sais pas quand, mais pour extraire des matières premières comme l'uranium ou le magnésium, et qui n'était pas fait pour les habitants. Voilà, il n'y avait que des wagons de marchandises, c'est un peu partout comme ça. Et donc, les ports en eau profonde, ça ne sert pas aux habitants, c'est clair. Hein.
Il y a un autre côté encore de ce système-là, qui est que pour rembourser les dettes, ces pays-là vendent leurs richesses à bas prix au Nord pour avoir les devises nécessaires pour rembourser. C'est
oui,
ça.
C'est-à-dire que les prêts sont faits en devises, donc il faut exporter. Pour avoir des devises, il faut exporter. Donc deux possibilités d'exportation, soit les exportations agricoles, soit les exportations minières. Et comme la Banque mondiale, depuis qu'elle existe et qu'elle participe à l'économie et au financement des pays en développement, elle n'a jamais, jamais participé au financement d'une construction industrielle qui aurait permis de transformer les matières premières sur place. Donc les matières premières sont exportées brutes à des conditions dramatiques. Voilà, et donc la dette ne sera pas remboursée réellement, mais par contre les intérêts seront payés et ça va appauvrir ces pays. Et puis effectivement, dans ce système-là, en fait, on a créé des bourgeoisies qui vivent à l'occidental dans tous ces pays et qui en fait sont totalement corrompues et qui ont bénéficié et des prêts et des extractions, etc. Et qui gouvernent vraiment leur pays pour le bien-être des multinationales, pour leur bien-être à elles-mêmes, puisqu'elles sont probablement actionnaires ou qu'elles y trouvent un intérêt, mais certainement pas pour le bien-être de leur peuple.
Et vous dites dans votre livre que le système dette et extractivisme ne se tourne plus seulement contre les pays du Sud, mais aussi maintenant contre les populations des pays du Nord.
C'est-à-dire que si on regarde les causes de l'austérité en France, par exemple, et on voit tout de suite que c'est au nom du remboursement de la dette, en fait, on ne rembourse pas la dette en France, puisqu'elle augmente, donc c'est qu'on la rembourse pas, mais au nom du paiement des intérêts qui frise les 50 milliards d'euros chaque année, ce qui est absolument démentiel. Et donc, pour payer ces 50 milliards d'euros, eh bien, on réduit les dépenses, alors que les dépenses n'ont jamais augmenté en France depuis un temps, mais on réduit les dépenses, c'est-à-dire on réduit le nombre des infirmières, des professeurs, on réduit les infrastructures, on réduit tout au nom du remboursement de la dette. Mais cette dette est illégitime, totalement illégitime. Mais bon, il faut que je m'explique, je peux pas...
Oui, alors... Alors expliquez-le, pourquoi elle est illégitime?
L'illégitimité de la dette repose sur le fait de ce que j'ai dit par rapport à l'aide odieuse, c'est-à-dire est-ce que les emprunts ont profité aux populations qui vont rembourser par leur effort de travail, par le paiement des impôts, cette dette? Est-ce que quand on a baissé les impôts des plus riches en France depuis 30 ans, quand on a baissé les impôts des entreprises depuis aussi 30 ans au nom du libre-échange qu'on a imposé, en fait, qu'on nous a imposé, et que du coup le budget était en déficit chaque année et que cette dette a monté, puisqu'elle est passée en 2007, au moment de l'élection de Sarkozy, elle était à 1200 milliards d'euros en France, et aujourd'hui elle dépasse les 2000 milliards d'euros. Donc vous vous rendez compte, de 2007 à aujourd'hui, ça fait 7 ans, elle a pris 800 milliards d'euros. C'est des sommes considérables. Pourquoi elle a pris ça? Parce qu'il y a eu une crise, que les banquiers, les banksters ont fait n'importe quoi, qu'il a fallu les sauver, qu'il a fallu sauver l'industrie automobile, etc., que le pays est rentré en récession, les impôts rentraient pas. Alors on dit, ah bah il faut faire l'austérité, maintenant on dépense plus, on augmente les impôts et on crée une récession monstrueuse dans laquelle on est, au nom du remboursement d'une dette qui est illégitime. Voilà. Alors pourquoi?
Parce qu'elle a servi à sauver les banques.
Oui, et puis parce que cette dette, elle est auprès des banques privées, que depuis 1973, le gouvernement Giscard Pompidou, eh bien le gouvernement s'est imposé d'emprunter aux banques privées. C'est fini, on n'emprunte plus à la Banque centrale. Aujourd'hui, par exemple, les banques privées empruntent à la Banque centrale, à la BCE, à 0,25%, qu'elles reprêtent aux États à 2, 3, 5, 6, pas à la France à 5%, mais à certains États, je ne parle pas de la Grèce ou de l'Espagne, à des taux qui frisent les 5 à 7%. Donc c'est un délire. On est dans l'austérité parce qu'il faut rembourser les banques à qui on a fait des cadeaux depuis 30 ans.
Alors, autre système d'extractivisme, vous citez par exemple l'exemple des grands projets inutiles qui existent en France comme en Afrique où on les appelle les éléphants blancs.
C'est une forme d'extraction puisque en fait la plupart des grands projets dits aujourd'hui, avant on disait inutile imposé, maintenant on dit nuisible imposé. Eh bien oui, ces projets sont la plupart du temps faits avec l'argent de l'État, donc des contribuables. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben ils servent en fait à faire tourner la machine BTP politique parce que avec une signature, un élu peut engager des travaux absolument colossaux. On l'a très bien vu avec le barrage du Testet. On le voit aussi avec Notre-Dame-des-Landes. Qui pour le moment ne se réalise pas, où la signature des élus ouvre des centaines de millions, voire des milliards d'euros pour des entreprises comme Vinci ou toutes sortes d'entreprises qui ont des bulldozers et des tractopelles qui cherchent du travail. Voilà, et c'est un délire. On est dans une collusion qui ressemble à de la corruption.
Vous dites le système dette et extractivisme est non seulement un facteur d'injustice, de corruption, mais aussi de violence sociétale et environnementale. Et vous dites il est également à l'origine du dérèglement climatique, sujet très très actuel en ce moment.
Oui. Évidemment que le pétrole, les extractions fossiles ont une grande responsabilité dans le réchauffement climatique. Mais on oublie souvent de parler de l'agriculture productiviste, qui est très importante, hein, dont la France profite largement, en particulier en important du soja du Brésil et d'Argentine, mais souvent poussé sur la déforestation amazonienne, ou de l'huile de palme sur la déforestation indonésienne. Or, l'agriculture productiviste depuis 50 ans est responsable, selon l'association Grain, 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 de 35 à 40% du stock de gaz à effet de serre. Or, ce qu'on dit pas, c'est que, et ce que dit Grain, c'est que on pourrait, avec une agroécologie efficiente, c'est-à-dire avec une agroécologie qui remettrait de la biomasse dans le sol, la biomasse qui est perdue, la matière organique des sols qui a été perdue par l'agriculture productiviste, on pourrait recapter le CO2, remettre cette biomasse dans le sol et en 50 ans reprendre ces 30 à 40% du stock de gaz à effet de serre et donc refroidir la planète, non pas arrêter le réchauffement mais refroidir la planète, ce qui n'est jamais dit. C'est absolument dramatique. En ce moment, la Banque mondiale est en train de parler de smart climate agriculture. C'est une horreur, c'est la promotion de l'agriculture productiviste qui ne nourrit pas le monde, qui l'affame, puisqu'il y a 2,3 milliards de personnes qui ne mangent pas suffisamment pour avoir une vie active selon la FAO. À partir du moment où on transforme des terres en agrocarburant, en agriculture productiviste, c'est au détriment de l'agriculture vivrière qui pourtant, jusqu'à aujourd'hui, nourrissait 80% des habitants de la planète, en nourrit encore 70%, mais voilà, on vole les terres, on n'a qu'à accapare les terres avec des histoires de gagnant-gagnant patronnées par la Banque mondiale. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour le réchauffement, d'autant plus que les agrocarburants ont un ROIE de 1.
Qu'est-ce que c'est
un ROIE? Eh ben, c'est l'énergie investie, le retour sur l'énergie investie, le retour en énergie sur l'énergie investie. Si j'investis un baril de pétrole dans le Texas en 1900, j'ai 100 barils de pétrole. Si j'investis un baril de pétrole dans des tracteurs, des engrais, etc., pour avoir un baril de gros carburant, eh ben, c'est tout ce que j'obtiens. Il faut que j'investisse un baril de pétrole pour avoir un baril d'agrocarburant. C'est-à-dire que c'est zéro nul. Mais simplement, ça fait marcher tout un système productiviste de pesticides, d'engrais, de tracteurs, d'accaparement, mais ça n'a aucun intérêt. Xavier Belin, qui est le grand directeur de Sophie Protéol, une très grande entreprise française qui transforme le colza et le tournesol en agrocarburant, et puis qui a des actions dans Invivo, qui est un grand groupe, c'est un énorme groupe qui fait près de 7 milliards de chiffre d'affaires dans l'agrobusiness, quoi, et qui est dont le directeur, Xavier Belin, est le véritable ministre de l'agriculture en France, puisque Le Foll est un sous-ministre pour moi par rapport à Xavier Belin. Eh bien, Sophie Protéol transforme la majorité des tournesols et des colzas de France en chimie verte et en agrocarburants qui ont un ROI de 1. C'est-à-dire nul. On devrait absolument pas faire d'agrocarburant. C'est un non-sens absolu. Et quand on importe des agrocarburants d'Amazonie ou d'Indonésie ou etc., on vole, on détruit les forêts, on détruit le climat et on vole les terres de tous les gens-là. Au Brésil, il y a une grande quantité de gens qui ont perdu leurs terres et qui sont nourris par la Bolsa Familia, qui est une donation de l'État pour qu'ils mangent. Mais c'est pas un système. Ils ont perdu leurs terres. C'est pas un système de fonctionnement, ça.
Alors, Nicolas Cerciron, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par quoi?
Voilà, ça c'est le constat, c'est dramatique le constat. Ben, il faut passer à l'agroécologie, il faut auditer les dettes pour savoir quelles sont les dettes légitimes de celles qui ne sont pas légitimes, annuler les dettes illégitimes, se battre contre les paradis fiscaux par lesquels se font les prix de transfert et qui permettent de voler les pays qui ont des ressources naturelles en grande quantité et qui se font voler avec les prix de transfert. Hein. On considère que la France perd 50 à 70 milliards d'euros par an à cause de l'évasion optimisation fiscale et que l'Afrique perdrait des centaines de milliards, voire 1000 milliards de dollars à cause de l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux. Mais c'est tout le sujet des paradis fiscaux qui fait que, par exemple, Total ne paye aucun impôt en France pendant des années alors que c'est la première entreprise française, que Starbucks, Google, etc. ne payent quasiment pas d'impôts, Amazon et tous ces gens-là. Voilà, c'est ça les paradis fiscaux, c'est ça les prix de transfert. C'est vraiment très important de comprendre ça, de comprendre comment on se fait voler et comment on se retrouve à avoir nos impôts qui augmentent et nos infirmières et les professeurs qui disparaissent. Il faut être clair, c'est la dette illégitime, c'est une horreur. Voilà.
Merci Nicolas Cerciron. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Dette et extractivisme » paru aux éditions Utopia.